c'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique. L'émission qui analyse l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Je suis Poli Mouzalia. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah Soumbela. Ensemble, nous abordons un sujet aussi sensible qu'inquiétant. Quand ta langue maternelle devient un sujet d'inquiétude, Sarah.
Oui, Poli. La langue par essence est un outil de communication, un pont entre les individus et les communautés. Mais en période de crise ou de conflit, elle peut rapidement devenir un marqueur stigmatisant. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC exacerbe les tensions sociales et politiques tout en relevant un clivage linguistique inquiétant. À Kinshasa, par exemple, parler swahili est de plus en plus perçu comme un signe d'appartenance à un groupe considéré comme étranger, souvent assimilé au Rwanda. Cela a conduit à des agressions verbales et parfois même à des violences physiques.
Pendant ce temps, Sarah, dans l'est du pays, dans les zones occupées par les rebelles du M23, soutenues par l'armée rwandaise, ce sont les non-swahilophones, comme les locuteurs de Lingala par exemple, qui sont stigmatisés. Là-bas, ne pas parler swahili peut suffire pour être soupçonné d'être un militaire FRDC, espion ou partisan du gouvernement. Cette polarisation linguistique qui s'ajoute à une situation déjà explosive fragilise la cohésion nationale et le vivre ensemble.
Derrière ces clivages linguistiques se cachent des enjeux politiques, identitaires et sécuritaires. La langue devient un marqueur d'appartenance ethnique ou communautaire, instrumentalisé pour diviser, exclure et parfois même justifier des violences.
Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi la langue qui devrait en principe être un pont entre les communautés devient-elle un mur ? Quel risque pour l'unité nationale ? Et surtout, comment contrecarrer cette tendance qui polarise les habitants de la République démocratique du Congo ?
Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir un invité. Il s'agit de Gloire Manessa, avocat et porte-parole de l'association Action Citoyenne de Lutte contre les Discours de Haine. Bonjour Gloire Manessa et merci d'être avec nous.
Bonjour madame, merci.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène se déroule dans un milieu universitaire avec des étudiants. On y voit des étudiants originaires des quatre coins du pays discuter. Chacun insère quelques mots de sa langue maternelle dans la conversation. Mais très vite, cela suscite de la suspicion et même des tensions. On écoute.
Mais cette fête est une grande réussite.
Mais
tu sais, j'adore ce genre de moment. Mzola Camille Koudian Souk.
Ah oui, Mbota.
C'est trop bon.
Hey. Ah oui. Ami, sois bien, ma chère. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein.
Ah ça.
Oulala. Oulala.
Mais c'est ça, hein. Tu sais, il y a une expression de chez nous qui dit qu'une bonne fête transmet non seulement la bonne humeur, mais elle fédère les gens.
Hein? Oh, okay. Pourquoi la chérie a gagné ça?
Non, c'est trop bon.
Pourquoi la chérie?
Oui.
Kitoko.
Ah, papa, fais très attention. Tu as entendu, hein? Fais très, très attention qu'il y a de traîtres parmi nous. Oh là, l'obaï.
Kitoko, de qui est-ce que tu parles?
Eh, ces deux-là sont des traîtres de haut niveau.
Hein? Oh, qui? Nous?
Ah,
mais Kitoko, en quoi Mbouta et Aman sont-ils des traîtres? On les connaît depuis longtemps.
Papa, je les ai entendus parler cette langage maudite de traîtres. Oh, Ozana, tu étais là?
Ah bon? J'ignorais qu'il existait une langue qui identifie les traîtres ici au campus.
Mais Kitoko, tu délires ou quoi? Depuis quand parler sa propre langue maternelle est devenu un péché qui nous fait passer pour des traîtres?
Tais-toi d'abord.
Fais attention à ce que tu dis.
Attends, on reconnaît un serpent venimeux par son sifflement, madame.
Quoi?
« Je les ai entendus parler cette langue maudite des traîtres, déclare l'un des étudiants, pointant du doigt ses camarades. Une phrase qui illustre bien le clivage, voire les tensions reposant sur des bases linguistiques. Alors, Maître Gloire Manessa, comment expliquez-vous que, dans un contexte de conflit ou de guerre, la langue puisse devenir un marqueur stigmatisant ou excluant certains citoyens, Gloire Manessa?
Merci beaucoup, Monsieur Poli. Qu'il nous soit permis de rappeler d'abord que dans la vie, de façon générale, dans la société, la langue, c'est l'un des éléments qui permettent de distinguer les uns des autres. C'est parmi les éléments d'identité d'une personne. Et particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous savons que la diversité ethnique que nous avons, avec plus de 220 ethnies, la diversité linguistique, beaucoup de dialogues, de dialectes que nous avons au-delà des 500, a toujours été considéré depuis longtemps comme un élément qui caractérisait cette mosaïque culturelle qu'il y a en République démocratique du Congo et qui constituait notre force. Malheureusement, depuis un certain moment, nous sommes en train d'aller vers un cycle évolutif de l'inversion de cette valeur-là. Nous avons atteint un niveau de l'incitation à la haine, un niveau de la polarisation de la société qui est plus dangereux pour le pays.
Peut-on dire, Maître Manessa, que cette situation est le résultat d'une instrumentalisation politique de ces identités linguistiques multiples de notre pays?
C'est la conséquence d'une politique tribaliste qui a été appliqué dans ces pays depuis un certain moment. Parce que nous savons que notre pays, depuis ses origines, la constitution des partis politiques s'est toujours assise sur des fondements tribalistes. On est IDPS, parce que on est ceux qui sont à l'IDPS sont directement caricaturés d'être majoritairement Balouba ou de l'espace Kassai. Ceux qui sont du PPRD sont directement essentiellement plutôt constitué des swahilophones, ainsi de suite. Les Bakongo sont dans les Abako et les Palou, dans les grands Bandundu et ailleurs. Cette caractéristique qui a été toujours remarquée vivante dans la constitution et le fonctionnement de nos partis politiques est aujourd'hui en train de prendre un élan qui va vers une diabolisation, parce que au fur et à mesure que la société est en train d'évoluer, certaines valeurs qui pouvaient être considérées comme constitutives du vivre ensemble dans le pays basculent vers des dangers, parce qu'ils sont instrumentalisés effectivement par des politiciens pour certains faits. Et dans le contexte particulier de la guerre qui est à l'Est, cette instrumentalisation des langues fait suite à la confusion que nous avons fait, nos autorités, les leaders d'opinion de façon générale, ont fait depuis le début de la reprise des combats entre les M23, une distinction entre les questions qui sont hautement sécuritaires, qui doivent être traitées à un certain niveau de l'État, et la politique politicienne de partis politiques. C'est parce qu'on a voulu prendre ces questions de la politique pour les instrumentaliser, en faire un débat des politiques politiciennes, d'adversité politique en interne, que nous en arrivons à stade d'instrumentalisation des langues.
Merci beaucoup, Gloire Manessa. Ces fractures linguistiques se manifestent-elles principalement dans les grandes villes comme Kinshasa ou Goma? Si oui, comment expliquer cette tendance?
C'est un phénomène qui part d'un pôle pour être généralisé dans toute la République. Parce qu'aujourd'hui, avec la magie des réseaux sociaux, un message qui est balancé principalement à Kinshasa ou à l'Est, même en dehors du pays, peut facilement atteindre chaque individu partout où il se trouve. Et nous savons, par rapport à nos monitorings, l'épicentre de cette stigmatisation, c'est Kinshasa, mais également dans l'espace Kassai, où on a vécu plusieurs messages venant, parce que quand nous faisons le monitoring des messages, même dans les réseaux sociaux, nous voyons très bien, nous savons bien situer l'auteur du message, où il se situe, où il a balancé sa vidéo à partir de l'intelligence artificielle. Nous avons vu à Kinshasa, effectivement, on a vécu quelques leaders d'opinion, des pasteurs, quelques influenceurs dans les médias sociaux, les Facebook, qui ont enregistré des vidéos à visage découvert, qui ont incité à la haine, qui ont stigmatisé les swahilophones, les indexant comme complices, comme traîtres dans ce qui arrive au pays. Et c'est directement métastasé dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et que si à Kinshasa, on a eu des cas et documentés des violations des droits de l'homme, des cas documentés d'attaques à l'intégrité physique de certains individus, à Kinshasa, mais également à Kananga, si on en a répertorié. Dans d'autres provinces, c'est plutôt des violences psychologiques qui se manifestent. C'est pourquoi peut-être dans l'opinion, on sait dire on situe ça seulement à Kinshasa ou à Kananga ou encore à Goma, mais c'est un fait qui est partout et c'est la nature de la violence. Si ailleurs, c'est la violence physique, dans certains autres coins, c'est la violence psychologique et tout ça rentre dans les violations des droits de l'homme qui menacent la paix et la société.
Maître Manessa, on a beaucoup parlé des cas de stigmatisation ciblant les swahilophones ici à Kinshasa. Mais qu'en est-il de la situation dans la zone sous occupation rebelle, notamment à Goma et à Bukavu?
Vous savez, dans les zones qui sont aujourd'hui sous occupation des rebelles, il est difficile d'avoir l'exactitude des faits qui se passent sur le terrain. Mais sinon, des éléments à travers ce qui nous informe, nous poussent plutôt à conclure que les actes de violation des droits de l'homme qui se commettent là-bas ne sont pas vraiment essentiellement liés à la stigmatisation ethnique, mais ce sont plutôt des actes qui sont liés au fait de rebelles qui soit cherchent à contrôler automatiquement toutes les couches des parties qu'ils occupent, peut-être qu'ils sont en train de chercher des poches de résistance, soit encore on constate qu'ils sont en train de vouloir recruter dans les populations et renforcer leur camp. Et dans tous ces mouvements-là, ils vont tuer, mais aussi ils sont en train de pourchasser toutes les voix qui sont dissidentes à leur philosophie. Et dans cette cacophonie-là, on ne sait pas exactement tracé en ce moment, et les efforts sont en train d'être faits pour avoir l'exactitude des faits, mais en ce moment on ne sait pas directement aller vite à la conclusion que ce sont des violences qui sont directement liées à l'appartenance ethnique, contrairement à d'autres parties de la République démocratique du Congo qui répondent directement aux fléaux qui sont en train d'être vécus à l'Est et qui développent ça à partir des messages et des actes que nous pouvons documenter facilement.
Merci pour ces explications, Gloire Manessa. Je vous propose à présent d'écouter un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. Cette fois, ils expérimentent les risques de l'instrumentalisation des identités linguistiques dans leur campus. On écoute.
Nous refusons d'être considérés comme des traîtres seulement parce qu'on parle notre langue maternelle. Eh oh, c'est quoi ça?
Non mais attends, ça c'est inacceptable ça. Mais Kitoko,
qu'est-ce que tu as?
Dis-moi, quoi, au sein de ces campus, il existe une langue officielle et une langue des méchants? Non mais moi, on a dit d'abord.
Pardon. Écoutez-moi bien. Si vous continuez à parler cette langue de traître là, je vous dis, vous n'entrerez jamais dans la boîte fermée des vrais autochtones reconnus au campus. Bozan on a place à Wate.
On
a place à
Wate. On a semaine.
Bozan a place à Wate.
Non, il faut faire nous comme nous, on a semaine à parler.
Au moins moi, je parle dans la langue de vrais autochtones, pas de traîtres comme vous.
Comment oses-tu nous discriminer?
Mais comment tu oses?
C'est notre langue.
Pour qui?
Alors toi aussi, tu parles une langue si inférieure.
Mais attends, mon cher, tu vois, c'est illusoire quand certaines gens se pavanent plus autochtones que d'autres juste parce que eux parlent une langue différente de celle des autres. C'est
con. En tout cas, moi, je pense que c'est lui qui disait que l'ignorance est la pire des maladies.
Il avait raison.
Non,
mais je te dis, tu sais quoi Kitoko, il n'y a pas pire langue que la vôtre. Oui, celle qui crache et répand la haine envers les autres.
Attends, tu as dit quoi?
Tu as bien
entendu. Non mais attends, tu as dit quoi?
Tu veux que je te lave les oreilles?
Vas-y, toi tu ne me connais pas encore. Madame, on va se frapper ici, tu ne me connais pas. Si on va se frapper.
C'est affaire de frapper là.
Vous êtes de traîtres, vous deux là, vous êtes de traîtres.
Attention à ton langage.
On va se
frapper. Manifeste-moi passer.
Tu vas faire quoi?
Mais les folles,
tu vas faire quoi?
Moi calme.
Nous refusons d'être considérés comme des traîtres simplement parce que l'on parle notre langue maternelle, martèle l'un des étudiants. Alors Gloire Manessa, lorsque des citoyens se sentent menacés simplement parce que ils parlent leur langue maternelle, quelles sont les implications sur le vivre ensemble et la confiance entre les différentes communautés?
La plus grande implication, c'est que la cohésion sociale est directement fragilisée. Et lorsqu'elle est fragilisée, c'est la paix qui est menacée parce que la violence s'ensuit automatiquement. Dans un contexte où la langue, vous savez, c'est un élément qui permet à deux individus de se comprendre, de se parler. Lorsque déjà la cohabitation entre des peuples qui vivaient déjà bien avant n'est plus, c'est la violence qui s'ensuit. Et que lorsque la violence s'ensuit, c'est la paix qui est directement menacée. Parce que lorsque on ne se parle pas, ou lorsque aujourd'hui je considère que celui qui est en face de moi est mon ennemi parce que sa langue est aujourd'hui diabolisée, ou parce que je considère sa langue comme une langue de traîtrise, déjà la paix sociale, elle n'est pas là. Si nous avons été jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si jusqu'à aujourd'hui nous sommes arrivés à mater ou à empêcher que ces vents de la balkanisation du pays arrivent jusqu'à ces jours, c'est parce que nous avons dépassé ce stade-là à un certain niveau de se considérer comme étrangers les uns des autres. C'est parce que quand je me déplace d'ici, j'arrive à Mbanzangungu ou à Kisantu, même si je ne parle pas le Kikongo de Mbanzangungu, mais que je trouve quand même quelqu'un qui peut me comprendre en Lingala, nous nous considérons tous comme un frère. Ça signifie ces barrières-là qu'on avait brisées à un certain moment a constitué une force autour de nous comme peuple. Et c'est ce qui a fait que nous soyons forts, que nous puissions avoir une capacité de résister, une résilience face à tous les vents qui voulaient facilement nous séparer. Et aujourd'hui, quand on s'attaque à la langue, on sait qu'on est en train de s'attaquer à cette identité qui nous fonde tous comme Congolais et les dangers même de la balkanisation est là si nous ne prêtons pas attention. C'est là où il nous faut interpeller la population congolaise dans son ensemble. Ceux qui en veulent à notre intégrité, à notre souveraineté nationale, savent qu'ils peuvent prendre des pans de territoire, ils peuvent tuer les populations, mais tant que nous resterons soudés à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ils n'arriveront pas. C'est pour cette raison qu'il faut commencer par déchiqueter ce tissu-là social qui nous lie comme communauté, comme Congolais, donc nous diviser les Baswahili, les Baluba, les Bakongo, les Bangala, afin de facilement entériner leur projet de nous atteindre et anéantir notre État. Et nous devons rester très prudents là-dessus.
Merci beaucoup, Maître Manessa. Dans un pays comme la RDC, riche de sa diversité culturelle et linguistique, que se passe-t-il lorsque des acteurs politiques ou de groupes armés exploitent ces différences linguistiques pour faire avancer leur agenda politique?
Ce qui se passe, c'est qu'ils vident l'essence même de la vie dans la société. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est la politique qui tient tous les autres secteurs de la société en état. Le fait que, même dans les milieux économiques, même dans les milieux scolaires, c'est la politique qui dicte la vie. Parce que c'est là où on trouve des personnes qui ont une classe, des personnes qui ont assez de moyens dans la société, et les autres ne font que vivre aux dépens d'eux. Et lorsque les politiciens, ils utilisent des rhétoriques qui incitent à la haine, qui divisent la société, ils visent leur intérêt politique, mais au derrière de cet intérêt politique qu'ils visent, ils ne calculent pas les conséquences qu'il y a dans la société, les conséquences qu'il y a dans le vivre ensemble, comme nous l'avons dit ici. Et ce qui arrive, c'est que les politiciens ou les leaders d'opinion, comme je l'ai dit ici, qui recourent à ces discours sont plus dangereux. Aujourd'hui, nous pouvons même bien les dire. Vous allez les constater que ce sont des vidéos, souvent des vidéos sorties parfois de leur contexte. Vous voyez un pasteur. Moi, j'ai vu un extrait d'une vidéo d'un pasteur qui parle de Baswahili. Ce pasteur peut l'avoir parlé dans un autre contexte. Mais vous voyez que comment cet extrait de vidéo est récupéré aujourd'hui dans un contexte très dangereux et ces vidéos incitent les gens à la haine. C'est pourquoi les autorités politiques, les leaders d'opinion, les acteurs sociaux, tout leader, tout acteur influent là où il est, à tout moment, à chaque contexte, même dans un temps qui n'est pas suspect, il doit toujours mesurer les propos qu'il tient devant les micros.
Merci encore une fois, Gloire Manessa, pour ces explications. Pour finir, écoutons un dernier extrait de notre sketch radiophonique, toujours avec les étudiants. Cette fois-ci, ils finissent par devenir plus tolérants et même attirer une certaine fierté de la diversité linguistique au sein de leur campus. On écoute.
On
Attends, laisse-moi passer.
Les amis, on ne peut pas supporter ça. Ça, non, on ne peut pas. On ne peut pas supporter ça. Il faut vite se débarrasser de ce long des vipères qui ne font qu'apporter la poisse au campus.
Non, c'est pas encore. Du calme, du calme.
Tu ne vas rien me faire.
Du calme, s'il vous plaît. Les gars,
non, on ne va pas se calmer.
Un peu de retenue quand même.
On ne va pas se calmer.
Avez-vous vu que la charte de l'université prend l'intégration de
Rose? C'est bizarre ça.
Kitoko, c'est pas seulement toi. Les réseaux sociaux amplifient également cette séparation linguistique.
Ça, on sait.
Et alors, pourquoi nous entrer déchirés en voulant identifier les autres comme des traîtres sous le seul prétexte qu'on ne parle pas la même langue maternelle?
Non mais, moi je pense que Mbouya a quand même raison.
Même dans votre propre langue maternelle, que vous vous qualifiez de langue authentique, bah, il y a des dialectes, non?
Ben, oui, je suppose.
Voilà. Et alors? Maintenant, si on commence à s'attaquer les uns aux autres sur base des différences linguistiques, finalement, on va arriver où?
Dis-moi, Kitoko, depuis qu'on est ensemble ici au campus, as-tu déjà eu des problèmes avec l'un de nous pour nous discriminer et nous maltraiter ainsi en nous qualifiant de traîtres?
Les gars, à mon humble avis, je pense que la langue ne devrait pas être un facteur pour étiqueter les autres comme des méchants. Parce que dans tous les groupes, en tout cas je vous dis bien dans tous les groupes, peu importe la langue qu'on parle, on peut toujours trouver des mauvais et des bons.
Pourquoi nous entre-déchirer en voulant identifier les autres comme des traîtres sous le seul prétexte qu'on ne parle pas la même langue maternelle, demande finalement l'un des étudiants à ses camarades. Alors, Gloire Manessa, que faire pour que la République démocratique du Congo redevienne une société fière de sa diversité linguistique et culturelle, où les citoyens n'ont plus peur d'être stigmatisés à cause de leur langue maternelle?
Ce qu'il faut faire à ces stades, c'est qu'au niveau de la société, de façon générale, il faut faire de la problématique de la lutte contre les discours de haine un sujet de débat national. Il faut vraiment qu'à tous les niveaux du pays, que tout le monde s'engage à basculer vers une position qui appelle à l'unité nationale et qui combatte effectivement les recours au discours de haine. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons dire, les gens peuvent être à l'aise, vous êtes derrière votre téléphone ou dans un autre coin du pays qui est à l'aise, dire clairement que les Baswahili qui sont à Goma ont peut-être accueilli les rebelles calmement et qui seraient des traîtres, nous les voyons dans les réseaux sociaux. Mais vous ne savez pas dans quel contexte ces populations se retrouvent. Quand une rébellion vient, quelqu'un vient prendre un territoire par la force, il impose sa loi qui n'est pas la loi de la démocratie. Mmh. Et que dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est déjà victime de cette situation de vie, de s'entêter. Nous avons vu des jeunes qui ont osé dire le contraire, se faire tuer. Et que tout le monde dans ces conditions-là, il est même recommandé que tout le monde dans ces conditions-là ne peut pas avoir une autre attitude que l'attitude de préserver ce qui est plus utile, sa vie, en suivant les instructions qui lui sont données par ceux qui occupent le pays. Dans ces contextes-là, c'est au contraire à nous qui sommes dans des zones de liberté de compatir avec ces populations et ne pas continuer à les indexer comme s'ils étaient des traîtres. De notre côté, ici où nous sommes, nous devons aussi savoir départir, je l'ai dit ici, ceux qui font la politique et ceux qui ne sont pas dans la politique. Il n'est pas automatiquement conclu que lorsque, parce que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, tout Moulouba est automatiquement membre de l'IDPS, c'est qu'il a des positions extrémistes et qu'il faut commencer à stigmatiser la langue Louba. Parce qu'on les voit aussi dans la communauté depuis un certain moment. Tout le monde, quelqu'un peut avoir un commentaire dans les réseaux, on lui dit qu'il départ ton nom, on comprend déjà que tu dois avoir cette position. Donc nous devons commencer à vider. Et ça, c'est un travail de toute la société, de façon générale. Le pasteur dans l'église, j'insiste sur le pasteur parce qu'il y a actuellement dans les réseaux sociaux émergence de messages qui viennent de certains leaders
religieux
et qui incitent également à la haine. Mais également les officiels de l'État. Nous sommes en train de mobiliser la communauté nationale et internationale pour que la situation règne dans notre pays. Mais nous ne pouvons pas aller le faire en incitant les autres à la haine, en stigmatisant certains autres leaders, en profitant de ces moments ici où le pays est divisé pour faire sa politique, se faire une santé politique et jetant en pâture l'impératif de l'unité nationale. Il faut qu'à tous les niveaux, commençant par l'État doit être proactif, le gouvernement doit prendre des mesures sérieuses pour sanctionner toute personne qui recourt au discours de haine. Et dans ce cadre, nous sommes en train de faire même un travail. Nous allons, dans les jours qui viennent, remettre une clé USB contenant des vidéos que nous avons répertoriées, que nous avons monitorées comme incitatif à la haine, et des propos que nous avons eu dans les réseaux sociaux et partout, des messages, même des leaders sociaux, et nous allons les déposer auprès du ministre de la Justice, espérant qu'il va faire quelque chose pour que ces acteurs-là soient mis à justice. S'il n'y a pas la justice dans une société, c'est la loi de la jungle. La société est déjà largement polarisée, qu'il faut des mesures au plus haut sommet de l'État, des mesures drastiques, parce que seul l'État a le monopole de la violence.
Maître Manessa, pour conclure, une dernière question pour vous. Comment sensibiliser la population au fait que la langue maternelle d'une personne n'est pas nécessairement liée à ses opinions politiques dans un contexte où l'on observe de menaces et des actes de violence basés sur de préjugés linguistiques ?
À notre niveau, nous pensons que ce n'est plus à la population d'être sensibilisée parce que depuis longtemps, nous l'avons dit, sinon en République démocratique du Congo, nous cohabitons entre nous. Dans toutes les provinces où vous allez trouver au moins un ressortissant d'une autre province et qui y vit calmement sans problème. C'est aux acteurs politiques, aux acteurs des discours, des messages qui incitent, qui instrumentalisent les populations qu'il faut sensibiliser. Il faut maintenant tourner les sensibilisations. Tout le monde, même la population, doit prendre des mesures de réserve pour s'opposer contre tout acteur, tout leader d'opinion qui vient devant elle avec un discours divisionniste. Il faut plutôt sensibiliser l'État à décourager les comportements-là. Parce que nous en sommes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est un champ très vaste qu'on ne peut pas contrôler. Mais il est facile aujourd'hui de retracer une vidéo qui incite à la haine et d'aller jusqu'à son auteur. Il est facile aujourd'hui d'indexer un leader qui s'est mis dans un coin, qui a tenu ses propos et les faits. Il est facile aujourd'hui de sanctionner un acteur institutionnel qui s'est tenu devant un meeting public et qui a sorti des propos divisionnistes. Parce que la haine ne vient pas de la base. Elle part de ceux qui la concordent. Les acteurs sont ceux qui sont haut placés, qui déversent ces messages dans la société et ces messages dans la société et de ces actes plutôt naissent les violences. Donc il faut plutôt sensibiliser les acteurs sociaux, politiques, les leaders d'opinion, mais il faut également que l'État sanctionne sévèrement ceux qui sont indexés comme acteurs majeurs d'incitation à la haine. C'est par ces moyens que nous allons limiter ces fléaux.
Voilà, c'est sur cette note que nous concluons cette émission. Nous avons vu comment la diversité linguistique, au lieu d'être un outil de rapprochement et de fierté culturelle, peut parfois devenir un facteur de division et de violence. La crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a exacerbé les clivages à travers le pays, transformant la langue maternelle en un marqueur d'appartenance communautaire, parfois utilisé pour exclure ou stigmatiser. Sarah.
Oui, Polly, ces tensions menacent la cohésion nationale et les vivre ensemble en RDC. Si elles ne sont pas rapidement dénoncées, combattues et réprimées, elles risquent d'aggraver les fractures sociales et politiques dans notre pays.
Pour y remédier, le gouvernement, les organisations de la société civile comme l'association pour laquelle travaille Gloire Manessa, les leaders communautaires et les citoyens eux-mêmes ont un rôle à jouer pour déconstruire les préjugés linguistiques et promouvoir l'ouverture sur l'autre. La langue ne devrait plus être perçue comme un mur, mais plutôt comme un pont entre les communautés qui constituent la variété et la richesse même de la culture de la République démocratique du Congo.
Effectivement, Pauli, il est urgent de sensibiliser les populations, de condamner fermement les discours de haine et de mettre en place des initiatives concrètes pour renforcer l'unité nationale. La diversité linguistique de la RDC est une richesse, pas une menace.
Merci encore une fois à notre invité Gloire Manessa pour ses analyses et ses contributions à cette réflexion. Merci également à Pierre Diassinois pour son accompagnement du côté de la régie technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Okapi, pour votre fidélité.
Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez ce numéro en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 sur les ondes de Radio Okapi. En podcast sur www.radiocapi.net et www.abarirdc.net.
N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos réactions et commentaires sur nos pages Facebook et X de Radio Okapi et AbariRDC. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
C'est le ton qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.